Edmond de Kent usa de son charme, qui était grand, et d'autres arguments aussi auxquels la nature humaine n'est pas toujours insensible. Il posa sur la table une lourde bourse d'or. « Je voudrais, dit-il, que ce prisonnier fût bien traité. Ceci est pour améliorer son sort. Il y a là 100 livres sterling. »
« Je puis vous assurer, my lord, qu'il est bien traité, »
dit Devril à voix basse avec une nuance de complicité. Et sans aucune gêne, il mit la main dans la bourse. « Je donnerais volontiers le double, » dit Edmond de Kent, « seulement pour l'apercevoir. » Devril eut une dénégation désolée.
« Comprenez, my lord, qu'il y a en ce château 200 archers de garde. »
Edmond de Kent se crut un grand homme de guerre en notant intérieurement cette importante précision. Il faudrait en tenir compte pour l'évasion.
« Et que si jamais l'un d'eux parlait, que madame la reine mère vint à l'apprendre, elle me ferait décapiter. »
Pouvait-on mieux se trahir et avouer ce qu'on prétendait cacher?
« Mais je puis faire passer un message, reprit le gouverneur, car ceci restera entre vous et moi. »
Kent, heureux de voir si vite avancer ses affaires, écrivit la lettre suivante, tandis que les rafales d'un vent mouillé battaient les fenêtres de l'auberge. « Fidélité et respect à mon très cher frère, s'il vous plaît. Je prie Dieu, de tout cœur, pour que vous soyez en bonne santé, car les dispositions sont prises, pour que vous sortiez bientôt de prison et soyez délivré des maux qui vous accablent. Soyez assuré que j'ai l'appui des plus grands barons d'Angleterre et de toutes leurs forces, c'est-à-dire leurs troupes et leurs trésors. De nouveau vous serez roi. Prélats et barons l'ont juré sur l'Évangile. » Il tendit la feuille, simplement pliée, au gouverneur.
« Je vous prie de la sceller, my lord, » dit celui-ci. « Je ne veux point avoir pu en connaître la teneur. »
Kent se fit apporter la cire par quelqu'un de sa suite, apposa son cachet, et Devril cacha le pli sous sa cotte. « Un message, dit-il, sera parvenu de l'extérieur au prisonnier qui, je pense, le détruira aussitôt. Ainsi... » Et ses mains firent un geste qui signifiait l'effacement, l'oubli.
« Cet homme, si je sais m'y prendre assez bien, nous ouvrira les portes toutes grandes le jour venu.
Nous n'aurons même pas à livrer bataille, » pensait Edmond de Kent. 3 jours plus tard, sa lettre était aux mains de Roger Mortimer qui la lisait en conseil à Westminster. Aussitôt, la reine Isabelle, s'adressant au jeune roi, s'écria pathétique
« Mon fils! « Mon fils, je vous supplie d'agir contre votre plus mortel ennemi, qui veut accréditer au royaume la fable que votre père est encore vivant, afin de vous pouvoir déposer et prendre votre place. De grâce, donnez les ordres pour qu'on châtie ce traître pendant qu'il en est temps. »
En fait, les ordres étaient déjà donnés, et les sbires de Mortimer galopaient vers Winchester pour arrêter le comte de Kent sur son chemin de retour. Mais ce n'était pas seulement une arrestation que voulait Mortimer. Il exigeait une condamnation spectaculaire. Il avait quelques raisons de se hâter ainsi. Dans un an, Édouard III allait être majeur. Il manifestait déjà de nombreux signes de son impatience à gouverner. En éliminant Kent, après avoir éloigné Lancastre, Mortimer décapitait l'opposition et empêchait que le jeune roi pût échapper à son emprise. Le 19 mars, le Parlement se réunissait à Winchester pour juger l'oncle du roi. Au sortir d'un séjour de plus d'un mois en prison, le comte de Kent apparut décomposé, amaigri, hagard, et comme s'il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il n'était pas homme décidément fait pour supporter l'adversité. Sa belle nonchalance distante l'avait quitté. Sous l'interrogatoire de Robert Walwell, coroner de la maison royale, il s'effondra, avoua tout, conta son histoire de bout en bout, livra le nom de ses informateurs et de ses complices. Mais quels informateurs ? L'ordre des Dominicains ne connaissait aucun frère du nom de Dianade. C'était là une invention de l'accusé pour tenter de se sauver. Invention également la lettre du pape Jean XXII. Personne, dans la suite de l'évêque de Lincoln, pendant l'ambassade d'Avignon, n'avait eu conversation au sujet du feu roi, ni avec le Saint-Père, ni avec aucun de ses cardinaux ou conseillers. Edmond de Kent s'obstinait. Voulait-on lui faire perdre la raison? Pourtant, il leur avait parlé à ses frères prêcheurs. On l'avait eu en main, cette lettre, « Ab omni pena et culpa ». Kent découvrait enfin l'affreux traquenard dans lequel on l'avait attiré en se servant du fantôme du roi mort. Complot organisé de toutes pièces par Mortimer et par ses créatures. Faux émissaires, faux moines, faux écrits, et plus faux que tous et que tout, ce Devril du château de Corfe, Kent avait basculé dans le piège. Le coroner royal requérait la peine de mort. Mortimer, assis sur l'estrade devant les lords, tenait chacun sous son regard. Et Lancastre, le seul peut-être qui eût osé parler en faveur de l'accusé, était hors du royaume. Mortimer avait fait savoir qu'il n'engagerait aucune poursuite contre les complices de Kent, ecclésiastiques ou non, si celui-ci était condamné. Trop d'entre barons se trouvaient à un titre quelconque compromis. Ils abandonnèrent, et même Norfolk, propre frère de l'accusé, le second prince du sang, à la rancune du comte des Marches. Une victime expiatoire, en somme. Et bien que Kent, s'humiliant devant l'assemblée, et reconnaissant son aberration, eût offert d'aller porter sa soumission au roi, en chemise, pieds nus et la corde au cou, les lords à regret rendirent la sentence qu'on attendait d'eux. Pour apaiser leur conscience, ils chuchotaient « Le roi va le gracier. Le roi usera de son pouvoir de grâce. » Il n'était pas vraisemblable qu'Édouard II fît décapiter son oncle, pour une action coupable certes, mais où la légèreté avait sa part, et où la provocation n'était que trop évidente. Beaucoup qui avaient voté la mort se proposaient d'aller le lendemain demander la grâce. Les communes, elles, refuseraient de ratifier la sentence des lords. Elles réclamaient un supplément d'enquête. Mais Mortimer, aussitôt acquis le vote de la chambre haute, courut au château où la reine, Isabelle, était à son dîner.
« C'est fait, lui dit-il.
Nous pouvons envoyer Edmond au billot. Mais nombre de nos faux amis escomptent que votre fils le sauvera de la peine suprême. Aussi, je vous conjure d'agir sans retard. » Il avait pris soin d'occuper le jeune roi pour toute la journée par une réception au collège de Winchester, l'un des plus anciens et des plus réputés d'Angleterre. « Le gouverneur de la ville, ajouta Mortimer, exécutera votre ordre, mamie, aussi bien que s'il venait du roi. »
Isabelle et Mortimer se regardèrent dans les yeux. Il n'en était plus à un crime près, ni à un abus de pouvoir. La Louve de France signa l'ordre de décapiter sur le champ son beau-frère et cousin Germain.
Edmond de Kent fut à nouveau extrait de son cachot et en chemise, les mains liées, conduit sous escorte d'un petit détachement d'archers dans une cour intérieure du château. Là, il resta une heure, deux heures, trois heures sous la pluie, tandis que le jour tombait. Pourquoi cette interminable attente devant le billot? Il passait par des alternances d'abattement et de folle espérance. Le roi, son neveu, était sans doute en train de sceller l'ordonnance de pardon. Cette station tragique était le châtiment qu'on imposait au condamné pour mieux lui inspirer le repentir et mieux lui faire apprécier la magnanimité de la clémence. Ou bien il y avait trouble et émeute. Le peuple peut-être s'était soulevé. Ou peut-être Mortimer venait-il d'être assassiné. Kent priait Dieu. Et soudain se mettait à sangloter d'angoisse. Il grelottait sous sa chemise trempée. La pluie ruisselait sur le billot et sur le casque des archers. Quand donc ce supplice allait-il finir?